Hydro-Québec se lance dans le développement éolien, donc achète des mégawatts de producteurs privés. Pas d'hier qu'on fait ça, là. Pas d'hier qu'on fait ça. Mais on parle d'entrée timide et tardive d'Hydro-Québec dans la production éolienne. Ça, c'était un article produit dans Le Soleil un peu plus tôt cette semaine. Totalement absente de la production éolienne au Québec, Hydro fera son entrée dans ce secteur d'ici 4 ans. Un bloc de production de 200 mégawatts vient de lui être accordé discrètement par le gouvernement du Québec. Parlons de ça, de ce qu'il en coûte pour produire, de ce qu'il en coûte pour acheter et de ce qu'il en coûte pour vendre avec Jean-François Blain, qui est analyste en énergie. On le retrouve à l'instant. Bonjour, M. Blain.
Bonjour.
M. Blain, Hydro-Québec qui achète à gros prix et qui vend à perte, est-ce que c'est une solution qui pourrait être, pas une solution, mais une façon de faire, qui pourrait, à la longue, finir par rapporter?
Ben, écoutez, il faudrait à tout le moins que le niveau de la demande d'énergie, en fait, de l'activité économique en général du côté américain de la frontière, et la reprise d'une croissance de la demande d'énergie se manifeste de façon assez forte, en plus que l'injection massive de gaz de shale largement exploité du côté américain cesse de créer une pression à la baisse sur les prix pour que les prix de vente dans les marchés extérieurs remontent éventuellement, on ne sait pas dans combien d'années, à un niveau équivalent ou supérieur au prix d'acquisition d'Hydro-Québec distribution pour ces achats qui complètent les besoins des clients québécois au-delà du volume d'électricité patrimoniale fourni par la division production.
Vous qui êtes un analyste en énergie, M. Blain, oui. La question que je veux vous poser, puis vous avez toute la latitude voulue pour y répondre, puis les connaissances, ben c'est vous qui les avez, donc vous savez où vous pouvez aller dans votre réponse, puis pas. Les MRC présentement du Québec qui investissent dans des projets de développement éolien pour revendre cette électricité-là à Hydro-Québec avec la bénédiction du gouvernement du Québec, eux, quand ils nous en parlent, voient ça comme une manne, comme des retombées importantes au niveau des coffres des MRC et des municipalités qui deviennent les actionnaires. Mais dans le fond, est-ce qu'on crée pas de la richesse d'une manière tout à fait et complètement artificiel?
En fait, on ne crée aucune richesse. On transfère une partie de la richesse existante dans l'économie intérieure du Québec vers certaines MRC, vers certaines municipalités, vers des bandes autochtones aussi, quand des blocs d'énergie leur sont réservés. Parce que quand Hydro-Québec Distribution prend des engagements d'achat à long terme, que ce soit auprès de producteurs privés d'éolien ou auprès de communautés locales, elle achète en ce moment à un prix moyen qui est au-delà de 10 cents le kilowattheure jusqu'à 11-12 cents dans le cas de certains projets. Or, ces engagements d'achat-là à long terme qui totalisent actuellement là, une valeur de 40 milliards de dollars d'engagements d'achat à long terme pris par Hydro-Québec Distribution sur 2 décennies, de 2011 à 2030, la valeur de ces engagements-là est de 40 milliards de dollars. Le coût de tous ces approvisionnements-là, qu'ils soient utiles ou pas, et on est en surplus pour plusieurs années, sont récupérés, les coûts d'achat dans les tarifs d'Hydro-Québec. Autrement dit, que ce soit un producteur privé ou un partenariat public-privé, MRC, avec un promoteur, c'est dans tous les cas Hydro-Québec Distribution, l'acquéreur, qui garantit un prix d'achat à long terme, indexé avec un taux d'inflation, un prix garanti sur des contrats d'au moins 20 ans. Donc, le risque financier du promoteur privé ou du partenariat public-privé qui met en place des parcs éoliens, il est transféré à l'acquéreur Hydro-Québec Distribution.
Ouais.
Et Hydro-Québec Distribution retransfère ce risque financier-là dans la base tarifaire de l'ensemble des clients québécois. Donc, si vous me demandez, est-ce qu'on crée de la richesse? En fait, non. On ponctionne une partie de la richesse existante dans l'ensemble du Québec via les tarifs d'électricité de tout le monde pour financer des projets de développement éolien, comme d'autres de petits barrages hydroélectriques privés, qui ne sont ni nécessairement utiles et qui nous coûtent beaucoup plus cher en termes de coûts d'acquisition que le prix qu'on pourrait obtenir à la revente si ces approvisionnements-là sont en surplus. Or, ils le sont par une marge considérable.
Donc les préfets de MRC, les maires qui adhèrent à tout ça, dans le fond, et qui se tapent dans les mains, qui applaudissent en disant, écoutez, nous allons recevoir de ça des dividendes importants qui vont permettre de se donner des marges de manœuvre au niveau financier, là, puis toutes les expressions qui vont avec. Dans le fond, c'est de l'aveuglement volontaire. C'est-à-dire qu'on on refuse de voir que celui qui nous achète le fait à perte, puis que dans le fond, celui qui nous achète va se reprendre sur la facture d'électricité à l'ensemble des Québécois.
Alors, c'est vrai que les municipalités ou les MRC qui obtiennent des projets vont avoir des revenus additionnels, qui vont sûrement les aider. Mais ces revenus-là proviennent de la collectivité. Il y en a des dizaines, voire des centaines d'autres municipalités isolées au Québec où résident des centaines de milliers d'autres citoyens qui ne se qualifient pas parce qu'il n'y a pas de gisement éolien de qualité au-dessus de leur tête, parce qu'il n'y a pas de partenariat financier de conclu avec un promoteur privé, parce qu'il n'y a pas une belle chute devant eux à harnacher sur une rivière le long d'une municipalité. Mais les citoyens québécois, qui sont tous des clients d'Hydro-Québec, notre monopole d'État, payent via leurs tarifs pour le financement de ces projets-là, qui sont non seulement inutiles parce qu'on est en surplus d'énergie par rapport aux besoins réels du Québec, mais qui impliquent des pertes de l'ordre de 60 millions de dollars par térawattheure acheté.
Dans le fond, on est revenu, M. Blais, on est revenu à une certaine époque qu'on croyait révolue, ou en tout cas en voie de l'être, où le gouvernement subventionnait en sachant très bien qu'il investissait dans un panier percé simplement pour préserver des emplois. Le plus bel exemple de ça étant la Gaspésia à Chandler ou encore la Kenworth à Sainte-Thérèse ou d'autres entreprises comme ça qui n'ont jamais véritablement repris toute leur couleur ou qui ont complètement fermé comme ça a été le cas à Chandler. Est-ce qu'on est revenu à ce stade-là de notre développement économique?
En fait, on n'est jamais sorti de cette conjoncture-là au Québec, étant donné la très grande étendue du territoire et la très faible densité de population. Le gouvernement du Québec a toujours eu une problématique de maintien d'un niveau d'activité économique minimal pour assurer la survie de certaines régions, des régions éloignées en particulier. La question, c'est plus de savoir quelle est la meilleure des façons pour fournir aux municipalités éloignées, aux régions éloignées, un peu d'oxygène financier pour développer non seulement ou pas particulièrement une spécialité économique, mais une activité économique diversifiée, autonome et qui soit pas trop dépendante d'une industrie en particulier. C'est toujours ça la question. Donc, les besoins des régions qui sont criants sur le plan financier, personne nie ça. Cette problématique-là est généralisée au Québec. Seulement là, on met à contribution les ressources, une partie de la richesse existante dans l'ensemble du Québec, pour financer le développement d'une industrie qui, dans la conjoncture économique actuelle, dans le contexte des marchés de l'énergie actuels, est contre-indiquée. On peut pas faire ça autrement qu'à perte pour un certain nombre d'années.
En terminant, M. Blais, Hydro-Québec qui demande à hausser notre facture d'électricité.
Oui.
Est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire exactement ce que vous nous disiez en début d'entrevue, c'est-à-dire que ce qu'on perd de la main droite, on va aller le récupérer de la main gauche, et ça, c'est dans la poche du payeur de la facture?
Tout à fait. C'est évidemment l'ensemble des clients d'Hydro-Québec, toutes catégories confondues, qui vont payer ça. Et ce qui, en fait, est déplorable, c'est qu'on n'a pas actuellement ni d'institutions démocratiques, ni de processus de consultation démocratique qui nous permettent de faire une planification intégrée des ressources, c'est-à-dire de convenir collectivement d'abord d'un objectif commun qu'on veut poursuivre, et en fonction de cet objectif-là, convenu démocratiquement à majorité au moins, décider ensuite du meilleur moyen ou de la meilleure combinaison de moyens pour atteindre cet objectif-là avec un maximum de bénéfices économiques, tout en respectant l'équité sur le plan social et en causant un minimum, le moins possible, d'impact sur le plan environnemental.
Donc,
on est dans un climat d'improvisation politique perpétuelle et, comme vous le suggériez, les gouvernements font des choix qui sont davantage reliés à leur propre intérêt politique de se s'accaparer un peu de capital électoral en région que des choix éclairés d'un point de vue de la planification énergétique et de la justification sur le plan économique et social.
Merci d'avoir commenté, M. Blais.
Je vous en prie, au revoir.
Jean-François Blain, analyste en énergie. Son propos est intéressant, rejoint entièrement le mien. Lui, c'est un analyste, moi pas. Et on a fini par se rejoindre sur le fond, c'est-à-dire que si ça devient un mauvais placement, c'est de la mauvaise gestion.